explorer le yin et le yang, symbole de la sagesse chinoise, pour équilibrer, renforcer et harmoniser notre corps, notre énergie et notre esprit.
Ensemble, cheminons sur les sentiers du bien-être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une toute nouvelle émission sur les ondes de Radio Royan-Vercors sur 93 FM. Il s'agit des Sentiers du Bien-être qui nous est proposé par Nadine Bertrand, acupunctrice au Centre Présence à Saint-Jean-en-Royans. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, on va s'interroger comment adapter au mieux notre corps, notre mental et notre énergie aux saisons qui rythment notre planète. C'est donc le thème de cette nouvelle émission. Et pour ça, tu vas te baser, Nadine, sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise qui est la base de ton travail. Et donc pour ce tout premier podcast, on va parler plus spécifiquement harmonisation saisonnière et intersaison. Peut-être qu'on peut commencer par définir un petit peu ces termes.
Oui, bien sûr. Donc l'harmonisation saisonnière, en fait, c'est une intervention qu'on va avoir à chaque intersaison. Donc on va en parler peut-être un peu plus après au niveau des intersaisons. C'est des périodes qui se situent avant les saisons dans lesquelles on va préparer notre corps pour passer au mieux la saison suivante.
Et donc dans ce cadre-là, on va essayer d'harmoniser au mieux, c'est ça, notre corps pour cette transition quelque
part. Oui, tout à fait. Et pas seulement notre corps, hein, notre énergie et notre esprit également, puisque on est toujours sur ces trois principes-là.
Voilà, trois aspects très importants qui ont une importance égale en fait dans la médecine traditionnelle chinoise.
Oui, c'est ce qui nous définit en fait. On parle des trois trésors, on parle du corps, de l'énergie et de l'esprit. Et on va toujours travailler sur ces trois trésors.
Alors si on entre maintenant dans le vif du sujet, donc on va s'intéresser aux saisons en Chine qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, comment elles sont définies là-bas?
Eh bien en fait, on part toujours de la théorie du yin et du yang, hein, qui quoi qu'il en soit est la base de la médecine traditionnelle chinoise, et on va évoquer l'idée d'opposition. Et à travers cette opposition, notamment entre la luminosité qui est yang et l'obscurité qui est yin, eh bien cela va donner naissance à quatre saisons. En fait, à travers ces nuances, on va dire par exemple que le printemps, c'est la saison la moins lumineuse. On va parler de petit yang. L'été, c'est la saison la plus lumineuse. On va parler de grand yang. L'automne sera la saison la moins obscure, donc petit yin. Et l'hiver, la saison la plus obscure, le grand yin. En fait, c'est toujours à travers ces nuances-là, de yin et de yang, qu'on définit les saisons. Mais c'est vrai que ce qui va surtout changer dans la vision chinoise, ça va être surtout que eux sont sur des saisons qui sont définies par du solaire et du lunaire. Et en fait, on fait toujours débuter les saisons, nous, aux solstices et aux équinoxes, alors que là-bas, en Chine, ça va marquer le milieu des saisons, en fait. Ça veut dire que chaque équinoxe et solstice marque vraiment le milieu de la saison. Donc ça, c'est la grande différence avec nous en Occident.
Et alors, tu souhaitais nous partager une citation sur ce thème, Nadine?
Oui, alors une citation qui date de 5000 ans. Hein, c'est le premier livre qui a été écrit en médecine chinoise, qui s'appelle « Le classique de la théorie des mutations ». Et en fait, il est dit que les principes de la vie résident dans les variations du yin et du yang des quatre saisons de l'année. C'est pourquoi le sage entretient son énergie yang au printemps et en été, son énergie yin en automne et en hiver. Et ce faisant, il se conforme aux lois fondamentales de la vie. Donc voilà, c'est toujours un aspect yin-yang.
Alors si on entre maintenant dans le détail des intersaisons, qu'est-ce qu'une intersaison finalement?
Eh bien en fait, une intersaison dans la vision chinoise, c'est une période de 18 jours placée avant chaque saison. Et donc elles permettent la transformation ou la modification énergétique d'une saison à l'autre.
Est-ce qu'on peut rappeler brièvement les dates en fait de ces intersaisons qu'on pourra préciser également d'ailleurs sur notre site internet quand on mettra le podcast de l'émission en ligne?
Oui, bien sûr, parce que c'est important puisque dans notre esprit français, on va pas faire débuter les saisons au même moment. Donc les intersaisons et notamment la première que l'on va rencontrer sera donc l'intersaison du printemps. Elle aura lieu du 17 janvier au 3 février et donc elle va vraiment permettre ce passage de l'hiver au printemps. L'intersaison d'été qui sera du 17 avril au 4 mai, l'intersaison d'automne du 20 juillet au 6 août et l'intersaison d'hiver du 20 octobre au 6 novembre.
Et alors ça, ce sont des dates qui sont valables uniquement en 2026, elles changent chaque année?
Alors, elles changent, elles varient plus ou moins parce que comme leur calendrier est basé sur l'aspect lunaire, c'est vrai que oui, à 2-3 jours près, c'est variable, mais ça reste toujours dans ces mêmes périodes, quoi qu'il en soit. Donc si on note ces dates-là, elles seront valables en 2027 quand même.
Et donc le passage d'une saison à l'autre va engendrer différents phénomènes qui vont exiger en fait à notre corps notamment de s'adapter.
Oui, c'est ça la difficulté, c'est que souvent il va y avoir ce changement de luminosité. Il y a des saisons où il y a plus d'intensité lumineuse, où les jours durent plus ou moins longtemps. Les changements de température, les changements de taux d'humidité également. Et c'est vrai que la majorité de la population, elle peut être en difficulté par rapport à ces changements-là. Donc l'harmonisation saisonnière, pour le coup, est intéressante pour éviter de rencontrer ces difficultés-là et de s'adapter au mieux. On est toujours dans l'aspect préventif avant tout en médecine traditionnelle chinoise. Si je puis me permettre également, c'est vrai que la médecine traditionnelle chinoise, elle porte toujours un regard analogique sur les saisons dans la nature et dans l'être humain. C'est vraiment la base aussi des explications et que je trouve assez intéressante parce que pour le coup, c'est beaucoup plus accessible à comprendre parce qu'on est toujours dans cette comparaison, dans cette analogie. Et c'est vrai que on le verra par la suite quand on développera chaque saison, mais il faut savoir que chaque saison et intersaison, elles sont associées à un élément, un point cardinal, un phénomène naturel prépondérant à la saison, une saveur, une couleur, un phénomène naturel de notre cycle de vie, une émotion et également un couple organe-entraille. Et donc, c'est vrai que c'est assez complet. Donc, voilà. Et si vous voulez bien, je vais vous parler de l'intersaison.
Allons-y.
Donc, les intersaisons correspondent à l'élément terre associé au couple rate-estomac. Donc, elles permettent de renforcer l'organisme sur le plan énergétique et préparer la saison à venir parce que la rate occupe des fonctions vraiment primordiales. En effet, la fonction de la rate, c'est avant tout de transformer les aliments et les boissons en énergie, produire et conserver le sang. Et elle détient aussi la force d'ascendance qui va lutter contre la pesanteur. En fait, c'est ce qui fait que tous nos organes restent en place. Comme la rate est associée à la transformation, production du sang et de l'énergie, eh bien, il est clair que le sang, c'est la force de vitalité de notre corps, mais également l'énergie, c'est aussi cette fonction qui permet toutes les fonctions du corps. Donc, c'est en ça que la rate a vraiment un rôle très important. L'estomac qui travaille avec elle, donc lui, il réceptionne et décompose les aliments. Donc, c'est vrai que, à partir de là, ce couple rate-estomac est vraiment au centre même de notre corps. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une émotion qui est liée à la rate, qui est la réflexion. Et en fait, la réflexion est à l'image de la terre, des intersaisons, parce qu'elle permet en fait la réorientation et le recentrage. Donc c'est plutôt bien, ça voudrait dire qu'on a une période avant la saison qui peut nous permettre ainsi de nous recentrer pour pouvoir aussi prendre les bonnes décisions pour la suite. Donc ça, c'est assez intéressant également de l'avoir en tête. Et donc le retour à l'élémentaire à la fin de chaque saison offre ce temps de pause et d'évaluation de la situation avant de repartir dans notre vie, tout simplement.
Et alors, donc ce temps de pause, tu le disais Nadine, ça peut être très bénéfique, mais si par contre ça devient, si la réflexion qu'on mène à ce moment-là devient excessive, quelle peut être la conséquence ?
Eh bien, c'est vrai que si on est trop dans la réflexion, on appelle ça la rumination. Et à ce moment-là, on part sur de l'excès qui peut engendrer de gros problèmes de digestion, des maux d'estomac, des troubles de la pensée, ainsi que des grands états de fatigue, puisque la rate à ce moment-là est trop occupée par toutes ces idées qui tournent en boucle et elle n'arrive plus à produire correctement le sang et l'énergie du corps. Et donc, le problème, c'est qu'une rate qui va se fatiguer, elle peut empêcher aussi après de réfléchir. Et on va être sur quelque chose de plutôt stagnant, on n'arrive plus à avancer. Et il faut savoir que c'est de là que vient l'expression, se faire du mauvais sang finalement, parce que on va être dans quelque chose qui tourne en boucle et on n'arrive plus à raisonner correctement. Et ça, c'est très fatigant. Et le problème, c'est que quand on fatigue à l'excès notre rate, on finit par avoir des descentes d'organes. Puisque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette rate apporte la force d'ascendance. C'est elle qui maintient les organes à leur place. Mais si elle n'a plus cette force-là, tout tombe.
Alors, pour éviter ça, comment est-ce qu'on peut aider notre rate ?
Eh ben, on va surtout la soutenir par l'alimentation, puisqu'en effet, c'est elle, avec l'estomac, qui vont gérer cette partie-là. Et c'est vrai que le côté intéressant en médecine chinoise, c'est qu'on associe également à ce couple rate-estomac une saveur, qui est la saveur douce, en fait. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de quand et comment utiliser la saveur douce, pour le coup. Et c'est vrai que les bonnes utilisations vont être surtout faites au moment où il va falloir tonifier l'énergie de notre rate. Et là, c'est vraiment l'utilisation fondamentale de cette saveur parce que en fait, on va aller soutenir l'énergie de la rate. Alors, Le symptôme le plus significatif au moment d'un vide de l'énergie de la rate, c'est la fatigue qu'on peut avoir après les repas. Au moment de la digestion, par exemple, quand on va piquer du nez, là. Là, on peut se dire que c'est vrai que notre rate n'a pas suffisamment d'énergie, donc on va être obligé de mobiliser toute l'énergie du corps, c'est ce qui fait qu'on pique du nez. Les ballonnements également, les selles molles et cette tendance aussi à facilement faire des bleus. Dès qu'on se cogne, on va avoir des bleus et la plupart du temps, on se dit « tiens, je me rappelle même pas de m'être cogné, mais ça, on va marquer très facilement ». Voilà. Le doux, donc cette saveur, elle va nourrir et tonifier et renforcer également la fonction de transport et de transformation de la rate. Mais attention, on parle de ce qu'on dit le doux complet, c'est à savoir des aliments naturellement sucrés, mais peu transformés, comme par exemple les céréales et les racines. On peut aussi utiliser la saveur douce pour harmoniser et détendre la rate, parce que c'est vrai que cette saveur a cette faculté, cette action de relâchement, voilà. Et donc, elle peut permettre d'enlever les tensions internes et d'harmoniser avec d'autres saveurs. Par exemple, ça peut être intéressant, quoi qu'il en soit, parce qu'on ne va jamais manger qu'une seule saveur, bien au contraire. On peut également l'utiliser pour produire des liquides organiques. Et à ce moment-là, on va l'associer avec la saveur acide pour générer plus de liquide dans notre corps et l'hydrater davantage. C'est pour ça qu'on peut boire de l'eau citronnée, par exemple. C'est quelque chose qui va aussi aider la rate. Donc, faciliter la digestion.
Alors, quand on parle de doux, de saveur douce, on entend très souvent sucre. Est-ce que c'est le cas ici?
Alors, c'est vrai qu'en Occident, on fait facilement cette erreur d'associer doux à sucré. Mais en fait, la médecine traditionnelle chinoise distingue deux types de saveurs douces. Il y a ce qu'on appelle le doux nourricier, qui correspond aux céréales, aux légumes racines, à certaines viandes, et qui est la base de l'alimentation pour soutenir la rate, comme par exemple aussi le riz, les pommes de terre, les carottes, les courges, les patates douces, la viande de bœuf. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que ces aliments, pour la plupart, ils sont jaunes, oranges, bruns, qui sont aussi des couleurs associées à la rate. Puisque, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi une couleur qui est associée aux saisons ou aux intersaisons. Et donc là, c'est plutôt la gamme des jaunes. Et vous avez ce qu'on appelle le doux humidifiant, donc qui sont plutôt les sucres raffinés, les pâtisseries, les fruits très sucrés, comme par exemple le sucre blanc, les bonbons, le soda, et tout ce qui est dattes, kaki, raisins, fruits secs, qui ont un indice glycémique assez élevé d'ailleurs, ceux-là, c'est un danger, soit parce que ils sont extrêmement sucrés, soit ce sont des faux doux, notamment tout ce qui est transformé, hein, tous les produits industriels, ce sont des faux doux. Et ceux-là vont amener beaucoup d'humidité dans le corps, et notamment dans l'organe de la rate, qui, elle, déteste l'humidité, donc c'est compliqué, parce qu'en fait, on va entraver sa possibilité de bien transformer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va amener... des problèmes au niveau de la digestion et qui va aussi nous rajouter beaucoup de mucosité. Et ça entrave également le corps, le bon fonctionnement.
Donc plutôt le doux nourricier dont on parlait à favoriser donc pour la rate et éviter ce doux humidifiant qui peut nous créer au contraire plus de problèmes. Et est-ce qu'il y a des moments où il faut éviter totalement la saveur douce ?
Oui, oui, il y a certains cas où même sur le bon doux, on va dire, il faut être vigilant parce que, par exemple, si on a déjà beaucoup d'humidité à l'intérieur de notre corps avec des glaires, alors c'est pas très parlant comme ça, mais en fait, c'est des tableaux où on a des œdèmes, où on fait de la sinusite chronique, ou une sensation de lourdeur dans le corps. Eh bien là, c'est vrai qu'il faut vraiment éviter cette saveur parce qu'on va accentuer le tableau. Également aussi, quand on a ce qu'on appelle des stagnations digestives, c'est-à-dire que le ventre est déjà bien rempli, eh bien on va éviter de rajouter du doux par-dessus parce qu'on va alourdir davantage le processus. De toute façon, rien n'est bon dans l'excès. Hein. À chaque fois, on en revient à la même problématique. On va entraver le corps parce que en pensant bien faire. Mais c'est vrai aussi que le doux, c'est quelque chose qui nous attire facilement. La notion de plaisir est souvent associée au doux et notamment au sucré dans notre culture. Je voudrais même me permettre une remarque générale par rapport aux couleurs et aux saveurs, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, j'invite à ce que vous observiez les périodes pendant lesquelles une couleur ou une saveur vous appelle, ou au contraire, qu'on fuit. Parce que comme chaque saveur et chaque couleur est associée à un organe, c'est intéressant de s'y pencher, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a peut-être un dysfonctionnement derrière au niveau de cet organe. Soit il appelle parce qu'il a réellement besoin, et dans ce cas-là, c'est important de pouvoir y répondre, ou soit au contraire, des fois, il y a une saturation qui fait que, bon, bah, on va arrêter d'en rajouter. La coupe est pleine.
Et est-ce qu'on parle des couleurs des aliments seulement ou une couleur qui peut nous appeler au-delà de l'alimentation ?
Alors, au-delà de l'alimentation, hein, ça peut être vestimentaire. Des fois, voilà, le matin, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de mettre une écharpe jaune ? Ben, tout simplement parce que voilà, ça peut être la rate qui nous appelle à mettre un peu de jaune dans notre journée, quoi. Tout à fait. Ça, c'est pas que dans l'assiette.
Et peut-être alors que nos couleurs préférées, par exemple, révèlent aussi notre terrain
Oui, on pourrait même le voir comme une notion de caractère, de tempérament, tout à fait. Tout à fait.
Alors, si on veut conclure un petit peu sur cette question de la rate, Nadine, qu'est-ce qu'on peut ajouter avant de terminer cette émission ?
Eh bien, on peut dire que quoi qu'il en soit, la rate est vraiment l'organe de régulation du corps physique et énergétique. Mais bien sûr que tous les organes ont un rôle important. La médecine chinoise voit le corps comme un royaume où on a l'empereur qui est le cœur. Et donc, lui, il régit le royaume. Mais après, chaque organe a une fonction bien évidemment importante. Et rate-estomac serait à ce moment-là les cuisines du château, on a envie de dire. Donc, c'est l'importance puisque c'est elles qui vont nourrir toute la troupe qui vit là. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de comprendre qu'il n'y a pas que les intersaisons qui peuvent être intéressantes à appliquer certains conseils. Il est évident que chaque saison a ses conseils, a ses variations, et donc tout est à prendre en ligne de compte.
Eh bien, merci beaucoup Nadine donc pour ce tour d'horizon très complet sur les harmonisations saisonnières et les intersaisons qui étaient en quelque sorte l'introduction de ta nouvelle émission, donc Les Sentiers du Bien-être, qu'on va vous proposer eh bien à chaque changement de saison donc sur les ondes de Radio Royan Vercors. Et pour la prochaine émission, on s'intéressera donc plus spécifiquement à la première saison donc de l'année, la première saison qui est le printemps. Merci beaucoup Nadine, donc je le rappelle, tu es acupunctrice au Centre Présence à Saint-Jean en Royan et donc tu nous proposes cette émission Les Sentiers du Bien-être.
Merci beaucoup, merci à toute l'équipe et puis à très bientôt.